Vous êtes bien sur Radio Libertaire, c'est la radio libre de la Fédération anarchiste et c'est l'émission lundi matin. Salut à toutes et tous, salut à mes camarades du groupe Libertaire d'Ivry et salut aussi aux participants et participantes que nous avons rencontrés hier à la librairie Publico pour la projection discussion autour du film Le Pont. Merci à vous si vous êtes à l'écoute pour votre présence et participation tout aussi enrichissante à cet échange que nous avons eu et une petite caresse à ce petit chien fort sympathique qui était là et qui s'appelle Cozy. Voilà, bonne fin de matinée à tout le monde. Une petite chanson et je vous présente dans quelques instants le thème du jour.
Au-dessus de l'île, on voit des oiseaux. Tout autour de l'île, il y a de l'eau.
Bandit, voyou, voleur, schnappant.
Qu'est-ce que c'est que ces hurlements?
Bandit, voyou, voleur, schnappant.
C'est la meute des honnêtes gens qui fait la chasse à l'enfant.
Il avait dit, j'en ai assez de la maison de redressement. Et les gardiens, à coups de clé, lui avaient brisé les dents.
Et puis il l'avait laissé étendu sur le ciment.
Bandit, voyou, voleur, schnappant, maintenant il s'est sauvé. Et comme une bête traquée, il galope dans la nuit. Et tous galopent après lui, les gendarmes, les touristes, les rentiers, les artistes.
Bandit, voyou, voleur, schnappant, c'est la meute des honnêtes gens
qui fait la chasse à l'enfant. Pour chasser l'enfant, pas besoin de permis. Tous les braves gens s'y sont mis.
Qu'est-ce qui nage dans la nuit? Quels sont ces éclairs, ces bruits?
C'est un enfant qui s'enfuit, on tire sur lui à coups de fusil.
Bandit, voyou, voleur, schnappant, tous ces messieurs sur le rivage, sombre, douille et vert de rage. Bandit, voyou, voleur, schnappant,
rejoindras-tu le continent? Au-dessus de l'île, on voit des oiseaux. Tout autour de l'île, il y a de l'eau.
On vient d'écouter donc à l'instant La chasse à l'enfant. C'était un duo, Juliette, Jean, Guidoni. Le thème du jour sera consacré à un article, à la chronique médiatique qui est donc qui paraît donc dans Libération autour du lapsus d'état de Bruno Retailleau. Donc lecture de cet article et ensuite quelques commentaires donc de ma part. Voilà, ce sera pour tout à l'heure donc 11h30. La rubrique agenda, se rencontrer, se voir, discuter, réfléchir, agir ensemble, ce sera donc dans quelques instants. On reste avec le même disque, hein, Guidoni chante Prévert, avec ce texte de Prévert, donc « Étranges étrangers ».
Cadille de la chapelle et des quais de Javel, hommes des pays loin, cobaye des colonies, de petits musiciens, soleils adolescents de la porte d'Italie, boumillant de la porte de Saint-Ouen, apatrides d'Aubervilliers, brûleurs des grandes ordures de la ville de Paris, et bouillanteurs des bêtes trouvée morte sur pied au beau milieu des rues. Tunisien de Grenelle, embauché, débauché, manœuvre désœuvré, Polac du Marais, du Temple des Rosiers. Étrange, étranger, étrange, étranger, vous êtes de la ville, vous êtes de sa vie, même si mal en vivait, même si vous en mourrez. Cordonnier de Cordoue, soutier de Barcelone, pêcheur des Baléares ou du Cap Finistère, rescapé de Franco, déporté de France et de Navarre, pour avoir défendu en souvenir de la vôtre la liberté des autres. Esclaves noirs de Fréjus, tiraillés et parqués, au bord d'une petite mer où peut-vous vous baigner. Esclaves noirs de Fréjus qui évoquaient chaque soir dans les locaux disciplinaires, avec une vieille boîte à cigares et quelques bouts de fil de fer, tous les échos de vos villages, tous les oiseaux de vos forêts. Et ne venez dans la capitale que pour fêter au Pâques à danser la prise de la Bastille le 14 juillet. Enfants du Sénégal, dépatriés, expatriés et naturalisés. Étrange, étranger, étrange, étranger, vous êtes de la ville, vous êtes de sa vie, même si mal en vivait, même si vous en mourrez, même si vous en mourrez. Enfants indochinois, jongleurs aux innocents couteaux, qui vendiez autrefois aux terrasses des cafés de jolis dragons d'or faits de papier plié. Enfants trop tôt grandis et si vite en allés, qui dormez aujourd'hui de retour au pays, le visage dans la terre et des pompes incendiaires labourant vos rizières. On vous a renvoyé la monnaie de vos papiers dorés, on vous a retourné vos petits couteaux dans le dos. Étrange, étranger, de la ville, vous êtes de sa vie, même si mal en vivait, même si vous en mourrez, même si vous en mourrez.
Voilà, Jean-Guy Denis, Prévert, encore une fois, c'est pas fini. Il est 11h14, donc ce petit agenda du lundi matin, à travers une sélection donc de rendez-vous. Et pour commencer, une nouvelle qui attriste bien Radio Libertaire, puisque pour ma part, bah, c'est Mariama de l'émission Pas de Quartier qui m'a appelé donc dimanche pour me dire que notre ami animateur camarade Henrik qui animait, il faut en parler au passé maintenant, l'émission Radio X le vendredi à 22h30 sur Radio Libertaire était donc décédé à l'hôpital suite à une longue maladie, comme on dit. Voilà donc un grand vide ici pour Radio Libertaire. Pour notre part, l'émission lundi matin, la dernière fois qu'on l'avait rencontré, c'était Henrik, un débat projection qu'on organisait à la librairie Publico à propos du phare, sur l'histoire du phare, donc le Front homosexuel d'action révolutionnaire. Et pour cet après-midi-là, Henrik était parmi nous. Il avait d'ailleurs brillamment intervenu pendant ce débat. Et voilà, c'était la dernière fois que nous l'avions croisé, rencontré, avec qui nous avions pu alors échanger. Voilà, donc Mariama m'a dit que je l'ai croisée il y a 2 secondes dans le studio de Radio Libertaire. Donc une émission, mais vous en saurez plus en écoutant Pas de Quartier, serait consacrée donc à Henrik sur Radio Libertaire. Cette triste parenthèse étant fermée, retour donc au rendez-vous donc pour cet agenda. Donc des rendez-vous, oui, à vous proposer. On va commencer par. On va commencer par la coordination anti-REP Paris-Île-de-France. Donc une série de rendez-vous. Hein, je vous en ai déjà donc cité quelques-uns. Le prochain dont je voulais vous parler, c'était celui du 7 mai, donc ce sera mercredi. Ça va se passer au Bar à nous, c'est 78 rue Compans, dans le 19e, ça sera à 18h30. Et le thème de cette soirée, ça sera sur la répression spécifique des personnes en transidentité. Donc le 7 mai, donc 18h30 au Bar à nous. Autre rendez-vous, donc je voulais vous parler également, ce sera à la Kunda. La Kunda, donc lieu occupé à Vitry-sur-Seine, au 46 rue Laguesse. C'est donc à côté de la station Beethoven, hein, sur le tram, la ligne T9, hein, qui part de Porte de Choisy, ou sur la ligne 7 au métro Villejuif Paul Vaillant, couturier, si vous venez d'ailleurs que Vitry. Donc la Kunda, et qui propose le 9 mai donc une soirée concert de soutien à la Palestine. À propos de l'équipe de résilience Gaza, qui donc est présente sur le terrain et qui fournit nourriture, médicaments, matériel scolaire aux Gazaouis. Donc une soirée de soutien qui aura lieu donc le 9 mai à 18h, dès 18h donc à la Kunda. Toutes les recettes, bénéfices réalisés au bar de cette soirée seront donc réservés, redonnés au projet Résilience Gaza. Donc un concert de soutien, ça veut donc dire que il va y avoir des groupes, hein, donc sur scène, Dogmen, Guter, Prise Rapide, Vacarme, du Punk, de l'Indie Garage, donc concernant donc ces groupes qui seront en concert. Autre rendez-vous encore, et là ça sera à l'EDMP, hein, c'est 8 impasse Crozatier, c'est dans le 12e arrondissement de Paris, pas loin de la gare de Lyon. À l'EDMP, donc, dans le cadre des soirées nucléaires et cinéma proposées par la coordination antinucléaire d'Île-de-France, un film donc, qui sera projeté, Le secret d'État, les pollutions, le polygone, un secret d'État. Ça sera précédé d'un buffet et suivi donc d'un débat. Un petit mot, hein, sur ce film, parce que là, comme ça, ça dit peut-être pas grand-chose. Il y a plus de 60 ans, des savants sont venus dans les collines interdites de Ponfafergé-Moronvilliers pour créer le polygone, construit sur un champ de bataille. Le centre d'expérimentation servait de zone de test pour les détonateurs de la bombe atomique française. Dirigé par des ingénieurs venus de Paris, le polygone a été construit, entretenu et surveillé par les habitants des communes alentours. 10 ans après la fermeture du site, Damien Girard sait que le polygone a pollué les sols et les corps, mais aussi les esprits. Devenu maire, il veut rompre le silence, briser ce secret de famille partagé par tout un village depuis 3 générations. Autre rendez-vous encore. Là, il s'agit donc de la 2e édition du village antifasciste. 2e édition donc de ce village qui se tiendra place du Panthéon de 11h à 20h le samedi 10 mai, donc village qui va rassembler des syndicats, des collectifs antifascistes, des organisations pour s'opposer à la manifestation néo-nazie du C9M et construire une riposte unitaire face à la montée des extrêmes droites en France et dans le monde. La même mobilisation, la même thématique, donc manifestation antifasciste et antiraciste, le samedi 10 mai à 14h à Port-Royal. Voilà, et à confirmer. Et l'annonce dit qu'il faut suivre les infos sur l'Instagram @manifantifa10mai. Voilà. Autre chose encore. La librairie Publico, on va quand même faire un petit tour à la librairie Publico au 145 rue Amelot, donc dans le 11e arrondissement de Paris. Donc librairie Publico, où pour ce mois de mai, il y a un certain nombre de rendez-vous qui sont donc proposés. On va commencer par... le 11 mai, dimanche 11 mai, 16h, Français libre et républicain espagnol contre le nazisme, qui vous sera donc proposé par le groupe Salvador Seguí de l'AFA. Donc une rencontre donc le 11 mai donc à 16h. Et puis, autre rendez-vous, hein, on est toujours au 145 rue Amelot, dans le 11e arrondissement de Paris. Un spectacle, et là, ce sera le vendredi 16 mai, le voyage suspendu, spectacle de peinture parlante de Frédéric Forgeard, Frédéric pour nous, accompagné par Didier Gouedge. Le dimanche 18 mai à 16h, un concert, c'est Humor et Anarchia, Michel Pujadot. Canta Brassens, il chante Brassens en Castillo, Michel Pujadot, il sera parmi nous le 18 mai, donc à la librairie Publico. Et puis le 21 mai à 20h, ce sera le Ciné Commune proposé par le groupe Commune de Paris de la Fédération anarchiste. Ciné Commune, donc projection d'un film, suivi donc d'un débat. C'est un film de Thomas Lafarge qui sera proposé, qui est une adaptation du livre Le Village contre la Multinationale, paru aux éditions du Seuil. Et... donc un petit mot sur ce film qui vous est proposé et dont l'action, si on peut dire, se situe en 2020 à Courmelles dans l'Aisne, où une colère sourde gronde. Cette colère est celle des habitants qui voient leur paysage rural menacé par l'installation d'une usine de fabrication de laine de roche par le groupe danois Rockwool. Voilà pour la librairie Publico. Je crois que c'est un petit peu près tout ce que je voulais vous proposer. À moins que non, il y a peut-être encore d'autres rendez-vous. Hein, on peut peut-être aller un petit peu plus loin dans le temps. On va aller jusqu'au 23 mai quand même, où il y aura Jean-Jacques Gandini, qu'on connaît bien. Qui sera parmi nous donc à la librairie Publico le vendredi 23 mai à 19h pour revenir sur donc le procès Papon à l'occasion d'un livre qui est sorti récemment, dont il est l'auteur bien sûr. Donc retour sur Maurice Papon, ce secrétaire général de la préfecture de Gironde sous le régime de Vichy, qui était donc comparu devant la cour d'assises de Bordeaux, inculpé de complicité de crimes contre l'humanité. Retour sur ce procès avec Jean-Jacques Gandini, qui l'avait suivi, donc, ce procès intégralement. Un livre, je vous disais, hein, donc, c'est à l'occasion de la sortie de ce livre qu'on reçoit Jean-Jacques Gandini, c'est tout simplement « Le procès Papon », paru aux éditions « Le passager clandestin ». Voilà, et puis également, on n'est pas parisien, hein, Radio Libertaire est écouté aussi un petit peu partout ailleurs, en France et au-delà. Un petit tour du côté de Rennes, où là aussi c'est le nucléaire qui sera en débat, s'informer, débattre, s'organiser et lutter contre le nucléaire, avec l'infotour antinucléaire Bretagne-Normandie, la Grange de Montabeau, collectif antinucléaire, mais pas que, Piscine Nucléaire Stop, ainsi que le réseau Macno de la Fédération Anarchiste, qui avait donc signé un livre, La Pieuvre Nucléaire, paru aux éditions du Monde Libertaire. Ça sera le 17 mai à 14h30, et ça sera à la Maison des Associations, 6 cours des Alliés à Rennes. Et j'en profite pour saluer auditeurs et auditrices de Rennes et sa région, si toutefois ils étaient à l'écoute. Un petit mot encore pour vous dire que Le Monde Libertaire est sorti, c'est le numéro 1872, avec ce joli dessin des chapelets à la une du Monde Libertaire, ni Dieu ni Maître, qui vous renvoie donc à un dossier. Voilà, Monde Libertaire, qui est arrivé à la librairie Publico et que vous pouvez d'ores et déjà vous procurer si vous le souhaitez. Voilà, c'est tout pour l'agenda. On va passer un petit moment en musique. Bah oui, j'avais dit Prévert encore, Prévert toujours. J'aime beaucoup Prévert, vous l'avez compris, et ses interprètes. Et là, on va revenir sur cette interprétation. Alors, je le passe, c'est vrai en ce moment, parce que j'ai retrouvé le titre. Et voilà, et je l'aime bien, et donc je le partage. C'est L'effort humain. L'effort humain, Jacques Prévert, Serge Reggiani. On se retrouve tout de suite.
L'effort humain n'est pas ce beau jeune homme souriant, debout sur sa jambe de plâtre ou de pierre, et donnant, grâce aux puérils artifices du statuaire, l'imbécile illusion de la joie, de la danse et de la jubilation, évoquant avec l'autre jambe en l'air la douceur du retour à la maison. Non. L'effort humain ne porte pas un petit enfant sur l'épaule droite, un autre sur la tête et un troisième sur l'épaule gauche avec les outils en bandoulière et la jeune femme heureuse accrochée à son bras. L'effort humain porte un bandage hernière et les cicatrices des combats livrés par la classe ouvrière contre un monde absurde et sans loi. L'effort humain n'a pas de vraie maison. Il sent l'odeur de son travail. Et il est touché aux poumons. Son salaire est maigre. Ses enfants aussi. Il travaille comme un nègre et le nègre travaille comme lui. L'effort humain n'a pas de savoir-vivre. L'effort humain n'a pas l'âge de raison. L'effort humain a l'âge des casernes, l'âge des bagnes et des prisons, l'âge des églises et des usines, l'âge des canons. Et lui qui a planté partout toutes les vignes et accordé tous les violons, il se nourrit de mauvais rêves et il se saoule avec le mauvais vin de la résignation. Et comme un grand écureuil ivre sans arrêt, il tourne en rond dans un univers hostile, poussiéreux et bas de plafond. Et il forge sans cesse la chaîne, la terrifiante chaîne où tout s'enchaîne. La misère, le profit, le travail, la tuerie, la tristesse, le malheur, l'insomnie et l'ennui. La terrifiante chaîne d'or, de charbon, de fer et d'acier, de mâche-fer et de poussière, passée autour du cou d'un monde désemparé. La misérable chaîne où viennent s'accrocher les breloques divines, les reliques sacrées, les croix d'honneur, les croix gammées, les ouistiti porte-bonheur, les médailles des vieux serviteurs, les colifichets du malheur et la grande pièce de musée, le grand portrait équestre, le grand portrait en pied, le grand portrait de face, de profil, à cloche-pied, le grand portrait doré, le grand portrait du grand divinateur, le grand portrait du grand empereur, le grand portrait du grand penseur, du grand sauteur, du grand moralisateur, du digne triste farceur, la tête du grand emmerdeur, la tête de l'agressif pacificateur, la tête policière du grand libérateur, la tête d'Adolf Hitler, la tête de Monsieur Thiers, la tête du dictateur, la tête du fusilleur de n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur, la tête odieuse, la tête malheureuse, la tête à claque, la tête à massacre, la tête de la peur.
Voilà, Prévert, Reggiani, l'effort humain. Alors, je l'avais dit, on va parler aujourd'hui d'un article qui est paru dans Libé, ça s'appelle « Le lapsus d'État » de Bruno Retailleau, c'est dans la rubrique médiatique de Daniel Schneiderman. J'ai lu cet article qui m'a inspiré quelques réflexions. Alors déjà, il est question de lapsus. Alors, un lapsus... on en fait tous, hein, des lapsus, bien évidemment, j'en ai déjà fait ici, à cette antenne, bien évidemment, je suis pas le seul à en faire, hein, je pense que ça arrive à tout le monde, hein, je le disais. Donc un lapsus, c'est quoi? C'est quand on parle, c'est souvent par la parole que ça se fait, hein, plus rarement par l'écrit, bien évidemment, c'est une erreur qu'on va commettre ou donc on va exprimer autre chose que ce que initialement on voulait exprimer. Alors on va pas se lancer dans l'analyse freudienne de du lapsus, mais des lapsus il y en a qui sont commis, hein, et dans le monde politique, puisque c'est ça qui nous intéresse, il y en a qui sont commis. Donc on va pas parler des lapsus qui effectivement pourraient donner l'occasion à Dr Freud de se livrer à des spéculations, comme par exemple quand Rachida Dati utilisait le mot fellation à la place du mot inflation, mais sur d'autres mots politiques. Alors il y en a plein, hein, des lapsus chez les politiques, il y en a pas mal. Comme par exemple... le ministre Éric Besson qui donc il était ministre en 2009, hein, et donc il s'exprimait et au lieu de parler de l'immigration en provenance d'Afrique et du Maghreb, il avait dit une invasion en provenance d'Afrique et du Maghreb. Et donc, là, on peut estimer effectivement que c'est un lapsus effectivement très révélateur sur ce qu'il voulait exprimer. Ou encore, quand Nicolas Sarkozy avait fait un amalgame, on va dire, un lapsus, où en parlant du roman d'Agatha Christie, Les Dix Petits Nègres, il avait parlé des 10 petits singes. Ou encore, et il y en a quand même beaucoup comme ça, Dominique de Villepin, par exemple, qui était donc Premier ministre, donc, à l'époque, et qui avait demandé donc aux députés, au lieu de leur parler de l'avis du Conseil constitutionnel, il avait demandé la démission du Conseil constitutionnel, ce qui, là aussi, je pense, est donc très 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 parlant. Et donc, il y en a plein, il y en a plein comme ça. Hein, on pourrait en relever pas mal, effectivement. Donc, des lapsus, il y en a beaucoup. Mais est-ce que ça renvoie ce qu'on appelle souvent un lapsus à la définition même du lapsus tel que c'est défini, donc à savoir une erreur commise. Donc on exprime autre chose que ce qu'on avait prévu d'exprimer. En l'occurrence, là, à travers ces quelques exemples, pour ma part, je ne pense pas que c'est un lapsus, mais que au contraire, ce qui a été exprimé ne relevait pas d'une erreur de langage, mais au contraire d'un langage qui exprimait donc une vérité, en tout cas une parole, une pensée qui appartenait donc à son auteur. Donc je vais lire donc cet article, hein, il est pas très long, de Daniel Schneiderman, donc dans sa rubrique donc médiatique intitulée Le lapsus d'état de Bruno Retailleau. Après le meurtre dans une mosquée du Gard d'Abou Bakar Cissé, les hommages rendus par des représentants de l'État sont la preuve d'un racisme systémique. En temps de polarisation, il y a les victimes que l'on pleure et celles que l'on déplore, celles que l'on célèbre et celles que l'on concède, les nôtres et celles du camp d'en face, celles que l'on étire dans la durée et celles que l'on rabougrit dans la hâte de passer à la suivante, celles qui accèdent individuellement au statut de victime et celles qui n'y sont admises que dans un lot. Toutes les victimes ne sont pas égales devant l'hommage médiatique et l'hommage politique étroitement connectés l'un à l'autre. Trois jours après le meurtre dans une mosquée du Gard d'un jeune musulman, Abou Bakar Cissé, d'une cinquantaine de coups de couteau par un Français d'origine bosnienne, au cri de « Ton Allah de merde », le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, invité à réagir sur BFM dès son retour d'Alès, détaille ainsi l'enquête policière. On est en train de retrouver les liens familiaux que Abouba, que cet individu avait, que cette personne avait. En trois secondes, dans la bouche du ministre, Abou Bakar Cissé passe donc par trois statuts différents, avant de se rabattre sur le statut neutre de cette personne. Il a transité quelques secondes par le statut d'individu, autant dire dans la bouche d'un ministre de l'Intérieur fonctionnellement contaminé par la langue des PV policiers, de coupable présumé d'un vol à la tire. Tout cela après avoir échoué à la troisième syllabe à son examen de véritables victimes, de ces victimes qui ont droit à leur nom, et surtout à leur prénom, des journées entières sur les plateaux éplorés, de CNews. Quel type de victime est donc Abou Bakar Cissé dans la France de 2025 ? Plusieurs heures durant, la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivert, a hésité avant de consentir à observer la minute de silence sollicitée par les parlementaires de gauche. Le Sénat, lui, a refusé net cette minute de silence. Nous n'observons au Sénat deux minutes de silence que pour des disparitions de sénateurs ou pour de graves événements comme des attentats terroristes, explique sur BFM son président Gérard Larcher. De graves événements comme des attentats terroristes. Pas plus tard qu'en février, le Sénat avait néanmoins consacré une minute de silence à la mémoire d'une fillette assassinée dans l'Essonne par un jeune voisin énervé par une défaite sur le jeu vidéo Fortnite et qui souhaitait la racketter. Ainsi, sélectivement parcimonieux de ces minutes de silence, Larcher, sous la pression, exprimait néanmoins toute la solidarité du Sénat à la communauté musulmane lors d'une déclaration solennelle, non sans rappeler, dans le même paquet, équilibre oblige, l'agression d'un rabbin à Orléans. Quant à Retailleau lui-même, que le meurtre de Cissé d'une cinquantaine de coups de couteau dans une mosquée au cri de « ton Allah de merde » n'ait d'abord été qualifié d'islamophobe par le ministre de l'Intérieur et des cultes que comme une piste parmi d'autres, que le ministre ait attendu 48 heures pour se rendre dans le Gard, préférant honorer de sa présence en priorité deux meetings électoraux internes à LR, les Républicains, et les funérailles du pape, que lors de son déplacement dans le Gard, il se soit claquemuré entre les murs de la sous-préfecture d'Alès, en compagnie des notables, alors que se déroulait au même moment une marche blanche à la mémoire de la victime, que le séjour ministériel à Alès n'ait duré que 50 minutes. Il est vrai qu'il était attendu ensuite sur le plateau de BFM, qu'il ait refusé de recevoir la famille de la victime, prétextant de la difficulté de trouver la vraie famille d'un jeune homme en situation irrégulière, alors qu'il venait de croiser dans les couloirs de BFM l'avocat de cette même famille. Autant de signes qu'un jeune musulman poignardé dans une mosquée n'est pas une véritable victime, qu'elle n'a droit qu'à l'entrée de service, que la famille n'aura droit aux condoléances officielles qu'après vérification de ses papiers en règle. Ce qui établit l'existence d'un racisme d'État. Antisémite ou islamophobe, ce ne sont pas seulement des crimes de guerre, des lois, des règlements, des décrets ou, à l'inverse, des hommages et des minutes de silence. Ce sont des mots des représentants de l'État, ceux qu'ils écrivent, prononcent ou ceux qui leur échappent. Le lapsus du ministre est un lapsus d'État. Donc j'ai lu cet article parce que je dois l'avouer, je lis souvent les médiatiques de Daniel Schneiderman, donc dans Libération, et ça m'a un petit peu interpellé parce que j'ai pas trouvé effectivement qu'à la lecture de tout cela et même de ce que moi-même j'avais pu constater à l'écoute de certains médias que cela relevait d'un lapsus, mais au contraire de vérité émise sans doute. Donc voilà. Alors je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi j'ai du mal à considérer que c'est un lapsus, mais au contraire plutôt une parole affirmée. Et d'ailleurs, sur le mot de victime, effectivement Bruno Retailleau avait utilisé directement et sans ambiguïté le mot de victime, quel commentaire ferait-on ? Dans tout ça, on est dans quoi ? On est dans une affaire de communication. Bruno Retailleau n'a pas bien communiqué. Et cette communication révélerait un racisme d'État. Voilà, je suis un peu... Voilà, je suis un peu circonspect par rapport à cela. Si Bruno Retailleau avait bien communiqué comme il le fallait, avec les mots qu'il fallait choisir, les émotions qu'il fallait avoir, est-ce que cela aurait quelque peu contredit effectivement le racisme d'État qui lui existe bel et bien, qu'il y ait des lapsus ou pas, qu'il y ait des bonnes paroles ou pas, qu'il y ait le ton de l'émotion ou pas, le racisme d'État ne se mesure pas avec à l'écoute d'une bonne ou d'une mauvaise communication. Il est le racisme d'État que l'on peut constater dans des actes, dans des décrets, dans des lois, etc. La parole d'État, la parole politicienne, évidemment, il le dit et il a raison, est intimement liée, effectivement, à la parole médiatique. Et c'est avec Sylvie, c'est Sylvie qui relatait ça, puisqu'elle-même, comme pigiste, avait travaillé dans les médias et relaté ce que lui disait son rédacteur en chef, qui avait donc pour philosophie ceci, qu'il donc donnait comme méthode de travail donc à ses salariés, à savoir qu'il faut donner aux gens ce qu'ils ont envie donc d'entendre, ce qu'ils ont envie donc d'écouter. Parce que un média, c'est fait pour vendre du papier, c'est des parts de marché, c'est la publicité, c'est de l'argent en définitif, même si les médias ne sont pas neutres, bien évidemment, politiquement. Et pour ce qui est du monde politicien, on peut parler aussi de parts de marché. Si on considère que les électeurs sont des parts de marché donc à conquérir, on est un petit peu donc dans la même logique. Donc dire à ces électeurs ce qu'ils ont envie d'entendre. Après tout cela relève parfois d'un exercice périlleux. Comment contenter une partie de son électorat sans en froisser une autre, mais ça relève un petit peu, pour ma part, de la même logique. Et donc, dans ce discours que j'entends souvent de la part de ceux qui, critiquent les médias, il y a une idée qui est là, qui est sous-jacente, à savoir l'espoir. Donc de moraliser en quelque sorte les médias, l'espoir de moraliser la classe politique, l'espoir que éclate une éthique du journalisme comme une éthique de la politique. Et donc, en fonction de cela, un petit peu à l'affût du discours médiatique, à l'affût du discours politique, pour en débusquer un petit peu tous les travers et tout ce que ces discours-là, au-delà des mots, parfois peuvent aussi signifier. Pourquoi pas, moi-même dans cette émission, il y a plusieurs années, quand on était axé sur la critique des médias, c'est ce que je m'employais à faire. Et puis petit à petit, on a abandonné un peu cet aspect-là de l'émission pour évoluer donc différemment avec Nicolas, Sylvie. Donc je comprends tout à fait cela, mais je trouve que cet espoir d'attendre des médias quelque chose est vraiment un espoir vain, tout comme il est vain d'attendre du monde politique qu'il évolue dans un sens qui pourrait en tout cas se rapprocher d'une autre, de nos aspirations, on va dire. Donc, le faire le constat que l'État est raciste ne repose pas, pour ma part, sur l'observation d'un lapsus qui, à un moment donné, serait donc révélateur. L'État est raciste, quand on en fait le constat, c'est tout simplement au-delà des mots. Au-delà de tous les mots, et les mots peuvent être aussi racistes, bien sûr, mais au-delà des mots, ce sur quoi on peut porter son analyse et son verdict pour dire qu'un État est raciste, eh bien, c'est tout simplement en observant, en se penchant sur la réalité de sa politique migratoire. Par exemple, c'est en se penchant sur la réalité de sa politique à l'égard des sans-papiers, à l'égard donc des migrants. C'est se pencher sur la réalité de sa police et des pratiques racistes qui existent au sein de la police. Donc tout simplement regarder l'état des choses. Et à partir de là, tout simplement, à partir de ces observations, ou pour d'autres aussi de réalités vécues de la part de tous ceux qui subissent le racisme, de dire oui que l'État est raciste et tout ça n'est pas affaire de bonne ou mauvaise communication, de lapsus ou pas. Donc je pense qu'il faut apporter une importance relative aux médias, sans nier effectivement l'impact des médias dans la société. Après reste toujours cette question, quand j'évoquais un rédacteur en chef qui disait à ses journalistes ou salariés qu'il fallait donner aux gens, aux lecteurs, ce qu'ils attendaient, ne pas les fâcher, ne pas les contrarier, etc., relève d'une attitude, commerciale, tout simplement. On a des parts de marché à défendre, on a des impératifs publicitaires à remplir, des impératifs économiques à remplir. Ne fâchons pas le lectorat, ne fâchons pas nos auditeurs, ne fâchons pas nos téléspectateurs, et répondons à ces attentes. Et je pense que en grande partie les médias sont cela. Ce qui n'empêche que, à l'écoute de médias ouvertement d'extrême droite, ouvertement racistes, notre poil se hérisse, parce que tout simplement nous ressentons cette parole-là comme une parole blessante, comme une parole humiliante, et on réagit par rapport à ça, et c'est bien normal. Autre chose, aussi, à partir de là, la question que ça pose, c'est qu'une fois qu'on a dit que les médias n'y accordons pas trop d'importance, ou accordons-leur l'importance qu'ils méritent, mais pas au-delà, pose la question d'un point de vue militant, d'un point de vue anarchiste, et au-delà des anarchistes, pour tous ceux qui sont engagés dans le combat social, c'est comment intervenir, comment se situer. Et là, il y a, je pense, une bonne illusion envers donc les médias. On attend beaucoup des médias parce que les médias eh bien, sont importants, tout simplement. Ils touchent des millions de personnes. Mais je vois les choses un petit peu différemment. Quand on est impliqué, donc, politiquement, socialement, on a donc des pratiques. On est donc où on peut être parfois, souvent, très souvent pour certains, ça dépend des gens, sur donc le terrain social, le terrain des luttes. Eh bien, on compte ou on devrait compter en tout cas surtout sur eh bien la dynamique, je dirais, de la lutte elle-même. Sur ce qu'on a fait, sur ce qu'on a vu, sur les gens qu'on a pu rencontrer, qui vont tirer eux-mêmes des enseignements de cet épisode de lutte, tout simplement, de mobilisation, de manifestation ou autre, et vont pouvoir en tirer donc des enseignements. Alors ça se fait pas à l'échelle d'un média qui va être regardé, écouté par exemple par des centaines de milliers ou des millions de personnes. Ça va se faire à une échelle très très humaine. Par exemple, dans une lutte de sans-papiers, il va y avoir les sans-papiers eux-mêmes dans un collectif, peut-être quelques dizaines de personnes, et puis un collectif de soutien, quelques dizaines de personnes également, plus des gens qui vont rencontrer, autant ces sans-papiers que ce collectif de soutien, qui vont venir à une réunion, qui vont les soutenir, les aider, etc. Donc tout ça représente une petite communauté, peut-être de 100 personnes ou 150 personnes, mais guère plus. Et ils vont retirer quelque chose de cela, ils vont en tirer des enseignements. Alors on va me dire, c'est du gagne-petit tout ça. Mais je pense que c'est comme ça qu'on gagne. C'est de par ces moments-là que quelque chose peut se passer chez donc les personnes, chez les individus. Et l'illusion est là très très grande que quand une parole va passer devant des centaines de milliers ou des millions de personnes, que ça va avoir un impact important sur donc la société. Et j'ai un exemple qui me revient en tête comme ça. C'était, vous vous en souvenez peut-être, il y a bien longtemps, il y avait une émission, à l'époque ça s'appelait FR3, et c'était une émission de libre antenne destinée aux associations, organisations, partis, etc., où pendant une demi-heure, ou peut-être un petit peu moins, eh bien, une organisation, association avait donc la parole et la chance de s'exprimer, donc même si c'était pas une heure de grande écoute, mais quand même devant quelques dizaines ou centaines de milliers de personnes, donc bien bien au-delà de son auditoire limité qui est le sien donc habituellement. Et donc, je me rappelle que la Fédération anarchiste avait donc profité quelques fois de cette tribune, qui s'appelait Tribune Libre, d'ailleurs, je crois, tout simplement. Et donc, à l'époque, il n'y avait pas encore Internet, il n'y avait pas tout ça. Donc l'émission a lieu, des camarades disent ce qu'ils ont à dire, essayent de le faire le mieux possible, etc. Et un téléphone est donné donc à la fin pour que les gens puissent contacter. Et il se trouve qu'à ce moment-là, j'étais, moi, avec d'autres copains, à côté de ce téléphone qui pouvait sonner. Donc des centaines de milliers de personnes ont donc écouté à ce moment-là la Fédération anarchiste, c'était le cas, dont l'auditoire habituel était à l'époque, il n'y avait même pas encore Radio Libertaire, si Radio Libertaire existait déjà, étaient les auditeurs de Radio Libertaire, le journal Le Monde Libertaire, par exemple, et les gens que les groupes et militants pouvaient toucher là où ils vivaient et militaient. Et donc là, des centaines de milliers de personnes, quand même, à un moment donné, écoutent donc un message. Je le disais, le téléphone est donné. J'étais à l'autre bout, donc, et le téléphone sonne. Une fois, premier appel, un message d'insulte pour nous dire « Vous n'avez pas honte de faire rêver les gens avec de faux espoirs. » Clac, ça raccroche. Et puis, deux autres appels. Plutôt anodin, sympathique, on va dire. Et c'est tout. Et c'est tout. Et dans la grande purée médiatique entre l'information officielle d'État, celle qui passe par les médias, la publicité, cette rubrique Tribune Libre, dans laquelle on pouvait écouter tout un tas d'associations, organisations, etc. Puis après, de nouveau, de la publicité, puis les programmes du soir, etc. Eh bien, en réalité, l'écoute, et quand je dis le mot écoute, c'est-à-dire la capacité d'écouter, la capacité de comprendre, la capacité d'être critique ou la capacité d'approuver une parole, eh bien, je pense qu'elle ne peut pas s'exercer vraiment dans ce contexte-là. Cette espèce de bouillie télévisuelle n'incite que relativement peu à quelques réflexions que ce soit. Donc, d'un point de vue humain, d'un point de vue militant, eh bien, faut apprendre effectivement, je pense, à être des gagne-petits, d'une certaine façon. À savoir qu'on rencontre ceux qui vont devenir des amis, ceux qui vont devenir des proches, ceux qui vont devenir des camarades, ceux avec qui on va partager des idées, le désir de s'impliquer. Eh bien, on les voit arriver au compte-goutte, souvent un par un. Et quand ils n'arrivent pas au compte-goutte, eh bien, c'est pas par un effet médiatique, c'est par un rebond lié à une période historique particulière. Quand on a vu, par exemple, dans les milieux militants, et je parle les milieux libertaires, les milieux anarchistes, vu des arrivées, on va dire, entre guillemets, massives, de personnes qui donc nous découvraient ou exprimaient tout simplement le désir de nous rencontrer, de discuter avec nous, etc., voire effectivement convaincus de s'impliquer avec nous. Quand je dis entre guillemets massive, c'est parce que effectivement il y a à un moment donné un phénomène qui se passe où on note un intérêt nouveau eh bien de personnes. Mais ce qui a favorisé cet intérêt nouveau, c'est pas le fait que les médias par exemple auraient donc laisser la parole libre aux anarchistes sur des médias de grande diffusion. Et d'ailleurs, pourquoi le ferait-il ? En voilà donc une drôle d'idée, et même poser la question est quelque chose d'assez incongru. À moins qu'on espère effectivement qu'au nom d'une éthique journalistique, ça se fasse. Mais pure utopie. Donc c'est par exemple en 95. En 95, pendant le mouvement social de novembre-décembre 95, effectivement, à l'issue et pendant ce mouvement-là, des personnes, de façon significative, se sont rassemblées, par exemple, se sont rapprochées des milieux anarchistes. Et pourquoi s'en sont-elles rapprochées? C'est parce que, soit en rencontrant des anarchistes dans ce mouvement-là, bien sûr, ou soit elles-mêmes au sein d'un mouvement, eh bien, ont été amenées à se questionner, à douter, à se remettre en cause et à approfondir réflexion, tout simplement, et à un moment donné, à se questionner sur l'État, sur le syndicalisme, et à se radicaliser, comme on dit, dans leurs idées. Mais les médias, là-dedans, n'ont pas grand-chose à voir réalité. Si on regarde un mouvement comme les Gilets jaunes, dont, vous le savez, j'ai été quand même assez critique pendant toute la durée de ce mouvement-là. Mais si on regarde ce mouvement-là, il s'est construit en dehors des médias. Après, il a été médiatisé par les médias, c'est autre chose. Mais il s'est construit en dehors des médias. Et il y a plein d'exemples comme ça où, à la faveur d'un mouvement social, effectivement, mouvement de jeunesse, comme en 86, par exemple, aussi, où l'on a vu des jeunes, beaucoup, c'est vrai, effectivement, se tourner vers les idées anti-autoritaires, libertaires, anarchistes, mais non pas parce que un média quelconque leur aurait parlé positivement du courant libertaire. Non, c'est dans la lutte, au contact peut-être d'autres anarchistes aussi, c'est vrai, mais il en est ainsi dans chaque conflit social. À chaque fois qu'un mouvement social existe, eh bien, une minorité, et c'est toujours une minorité, mais qui se traduit quantitativement, même si on ne mesure pas les choses comme ça dans notre courant de pensée, quantitativement, on va avoir quelque chose qui va se produire, se passer en termes donc d'intérêt ou même de ralliement à nos idées et à notre combat. Mais les médias n'y sont pour rien. Alors, tout ça, ça m'amène à dire que des fois, il y a effectivement, je pense, dans nos milieux, donc anti-autoritaires, libertaires, anarchistes, etc., une trop grosse attente envers les médias. Avec cette idée que si les médias en parlent, ça va populariser ce courant de pensée, ça va populariser ce mouvement. Déjà, ils ne le feront pas. Et même s'ils le faisaient, je pense que ce serait quelque chose de tout à fait digéré dans la soupe, on va dire, globale que déversent les médias. Donc, je pense qu'il faut à la fois faire preuve de réalisme et d'humilité, savoir qui nous sommes, combien nous sommes, et quels sont nos ennemis dans la société. Les médias, bien sûr, bien évidemment, les médias, bien évidemment, l'État, bien évidemment, le monde politique, bien évidemment, le patronat, bien évidemment, la bourgeoisie. Et quand on a énoncé tout cela, je pense qu'on n'a pas grand-chose à attendre des médias. Donc faire preuve un petit peu d'humilité, de réalisme aussi, voir quelles sont nos forces, voir quels sont nos moyens d'agir, de se faire entendre en se disant un tract, même diffusé à quelques dizaines, quelques centaines, quelques milliers d'exemplaires, ce n'est pas grand-chose. Que beaucoup finiront pliés en quatre au fond d'une poche et au fond d'une poubelle, mais que parmi ce millier de tracts distribués, peut-être quelques dizaines seront lus, et que parmi ces quelques dizaines de tracts, quelques-uns rencontreront quelqu'un qui, à partir de là, s'ouvrira donc à une réflexion nouvelle et à un désir nouveau. Un auditeur me le disait un jour, il me disait « Mais vous, les anarchistes, vous êtes des gangs petits. Comment voulez-vous y arriver si vous ne rencontrez pas massivement les gens ?» Et j'avais eu avec lui à peu près les propos sous forme d'échange, mais ce que je vous ai dit donc à l'instant. Mais voilà, pour lui, grosso modo, les anarchistes étaient des losers, des éternels perdants, parce qu'ils ne savaient pas utiliser les médias. Et quand bien même utiliserions-nous les médias ? J'en viens à cela, c'est que une parole noyée au milieu d'autres, eh bien, ça ne veut rien dire. Un camarade à moi, syndicaliste cheminot, qui avait été invité sur un grand plateau de télévision, m'avait dit qu'à la finale, ça servait à pas grand-chose, que son propos avait été noyé au milieu d'autres propos de spécialistes des mouvements sociaux, de politicards, des chroniqueurs, éditorialistes eux-mêmes qui n'ont pas arrêté de le tacler en lui coupant la parole, etc. Il m'a dit, voilà, ça servait strictement donc à rien. À rien du tout, m'a-t-il dit. Il m'a dit, au moins, quand on est dans la rue, quand on distribue des tracts, qu'on rencontre les gens, au moins quelque chose peut se passer, on peut engager une discussion, on peut essayer de convaincre, etc. Voilà, donc, des médias, je dirais, n'attendons rien. Alors, quand je dis médias, je parle des grands médias, évidemment. Ensuite, le média, c'est quoi ? C'est un instrument pour diffuser de l'écrit, de la parole. Et cet instrument, là, on l'utilise. Ici, moi-même, je l'utilise d'une certaine façon. Oui, Radio Libertaire est un média. Il est bientôt midi 10, hein, je crois, ouais, un petit peu moins. On va écouter un petit peu de musique et on va écouter Gilbert et ses problèmes et se retrouver dans quelques instants. C'est bien Radio Libertaire. Vous êtes sur la radio de la Fédération anarchiste et c'est l'émission lundi matin. Voilà, Gilbert et ses problèmes. Alors, un auditeur me disait, mais il y a quand même des journalistes honnêtes. Je le pense aussi. Mais je dirais que là n'est pas le problème. Je le disais tout à l'heure en introduction de l'émission, j'aime bien lire la chronique de Daniel Schneiderman, même si j'en suis critique, mais j'aime bien la lire, voilà, c'est vrai. Et des journalistes honnêtes, oui, sans doute, il doit y en avoir. Moi-même, quand j'étais gamin et quand j'étais adolescent, je voulais devenir journaliste. Parce que j'étais fasciné par ce monde, par tous ces kiosques où il y avait toute la presse, tout ça. J'étais fasciné. En plus, j'aimais bien écrire, et donc je voulais devenir journaliste. Même un de mes profs me disait toujours que je ferais un excellent journaliste, etc. Bref, je caressais ce rêve-là. Et puis, après, tous ceux qui ont grandi dans des banlieues populaires ouvrières le savent très bien comment ça marche, hein, la sélection. Donc, à l'école, je suis pas devenu journaliste, je suis devenu ouvrier horticole, agricole aussi. Donc tout autre chose. Mais bon, ça, c'est l'histoire de l'école comme lieu de reproduction sociale. C'est un autre débat qu'il faut pas laisser de côté, bien évidemment. Mais c'est un autre débat. Donc je voulais devenir journaliste, et peut-être que je serais devenu un journaliste honnête, mais dans quel contexte aussi. Effectivement, ça m'arrive dans des quotidiens de lire des articles où je me dis, tiens, ce gars qui a écrit, ou cette femme qui a écrit, voilà quelqu'un qui a fait quelque chose d'honnête, tout simplement. Mais le problème, c'est que c'est dans un contexte. Effectivement, dans Libération, voilà, il y a la chronique de Daniel Schneiderman que j'aime bien lire. Mais c'est le contexte qu'on doit voir, c'est-à-dire le contexte du journal Libération. C'est-à-dire, on va pas refaire l'histoire du journal Libération, mais voilà quand même un journal qui a été créé à l'époque par d'anciens maoïstes qui se voulaient le journal du peuple par le peuple, etc., etc. Journal qui, lorsque moi-même j'étais lycéen, était mon journal, parce qu'il parlait de nos luttes, il parlait de nous, les jeunes, notamment. Et puis ensuite, les plus anciens d'entre vous ont vécu l'évolution du journal Libération après 80 et son retour, le fait qu'il devienne le journal de la gauche libérale, le fait qu'il devienne le journal de la gauche du tournant de la rigueur, qu'il devienne ce journal libéral, en fait, ça c'est le contexte général de Libération, où je parle de Libération, ou dans ce contexte-là, qui est, je dirais, un petit peu l'élément fondateur de ce journal-là, ce qui fonde ce journal, hein, le libéralisme économique, eh bien, parfois, oui, des articles sociétaux, on va dire, dont on va se dire que, oui, c'est intéressant, que, oui, ce ou cette journaliste a voulu faire quelque chose d'honnête, et peut-être l'est-il ou l'est-elle certainement, mais on doit considérer le l'idéologie globale qui est portée par un média. Voilà, de ne pas ramener ça donc à des hommes et des femmes qui feraient un petit peu tâche au sens positif du terme dans un contexte qui est moins reluisant et que nous combattons. Parce que cette réflexion-là, on peut l'entendre souvent. On peut l'entendre souvent. On peut l'entendre, par exemple, à propos de la police. Un coup, on me disait ici, au téléphone de Radio Libertaire, « Ah, mais des policiers, il y en a des biens, et il y en a même qui sont pas racistes. » Mais certainement qu'il y a des policiers qui ne sont pas racistes, voire qui sont antiracistes. c'est peut-être, et même certainement, bien sûr, que ça doit exister. Mais là n'est pas le problème. Ce n'est pas ce qui est important, c'est de juger une institution sur ce qu'elle est globalement, sur ce qu'elle affirme et sur ce qu'elle dit et surtout sur ce qu'elle fait globalement. C'est là-dessus qu'on doit poser un jugement. J'avais moi-même raconté ici à l'antenne qu'il y a bien longtemps j'étais à la mer, à la plage avec mes enfants et que un de leurs petits camarades se blesse le pied sur un rocher et donc je le prends dans mes bras et je l'emmène. Il y avait un poste de secours et les postes de secours souvent sur les plages sont tenus par des maîtres nageurs évidemment, mais aussi par des CRS, et donc j'arrive et donc je tombe sur un CRS. Ce CRS penche sur l'enfant, il le prend délicatement, il le prend dans ses bras, il le console, il essaye de calmer ses pleurs, et bon, c'était pas très grave, et il lui porte un soin. Cet homme avait envers cet enfant une grande douceur, mais le commentaire qui s'impose, c'est pas de dire « Ah bah tu vois, il y en a des biens quand même ». Quand on parle des CRS, on parle d'un corps répressif qui est constitué comme corps répressif dans la société. Qu'un homme, à travers cet épisode que je relate et que j'ai pu constater effectivement qu'il était doux, qu'il était même plutôt affectueux avec cet enfant, etc., ne prouve rien. Le même, vous l'avez peut-être rencontré dans d'autres circonstances, en manifestation, dans un mouvement social, pendant le mouvement des Gilets jaunes, ou à quelque occasion que ce soit, et qui vous est rentré dedans avec son bouclier, sa matraque, qui vous a gazé, qui vous a nassé, qui vous a interpellé. Donc, voilà, faut se méfier de ce genre de... on ne doit pas individualiser, même si les individus existent, bien évidemment, mais on ne doit pas individualiser, on doit considérer une institution, par exemple, pour ce qu'elle est, un journal pour ce qu'il porte comme idéologie, et que dans ce contexte-là, qu'il y ait des individualités particulières qui se manifestent. Oui, c'est comme la magistrature, tout le monde le sait, il y a des magistrats réputés sévères, répressifs, et d'autres réputés plus ouverts, plus tolérants, moins punitifs. Mais on porte un regard sur une institution en général, et on la combat, cette institution, dans sa globalité, et non pas en prenant en compte des situations particulières, avec des hommes particuliers, des femmes particulières. On combat donc des institutions, on combat des politiques, et à mon avis, c'est ce qui compte. Voilà, des exemples comme ça, il y en a évidemment à l'appel, on pourrait en citer plein. Après, si, pour revenir au terrain médiatique, je vais revenir sur qu'est-ce qu'on peut faire, parce que c'est vrai que si on est impliqué soi-même socialement dans une lutte, par exemple, je prenais l'exemple d'un collectif de soutien aux sans-papiers, la lutte des sans-papiers, voilà, être confronté à cela, être confronté à cette réalité dans l'isolement qui est parfois le sien, avec un contexte qui est difficile, qui est pénible, parce que humainement, voilà, c'est des luttes très très lourdes à mener, avec des résultats aléatoires, un combat sans cesse renouvelé, etc. Et que on assiste donc à un discours sur l'immigration, sur les sans-papiers, dans nombre de médias. Si on reste sur le terrain médiatique, on va se sentir désespéré par rapport à ce qu'on fait. On n'a pas de relais médiatique, on va se dire pas d'écoute, pas d'attention, etc. On se sent seul, on se sent isolé. Et on place ses espoirs effectivement en ce qui y ait un jour un réveil médiatique qui se fasse pour soutenir une cause. Et comme il n'en est rien, ou quasiment jamais rien, eh bien cette sensation d'isolement, je pense, elle existe. Sauf si on mise sur autre chose. Je l'ai un peu évoqué, mais je vais y revenir dans quelques instants, après avoir écouté Marcel et son orchestre.
Réclamer qu'on lui donne l'envie. Lino, pour son malheur, rencontra l'emmerdeur. J'aimais quand l'enfoiré mettait les pieds dans le plat. Y'a plus que sur les pizzas qu'on propose l'anchois. Contre les castrateurs, réveillons l'enterteur. Y'a pas que dans Star Wars que l'on combat l'Empire. La planète suffoque, mais où est l'antidote? Il faut un soulèvement quand le gouvernement. Après l'an 1000, l'an 40 et l'an 2000, dites-moi quand. Après l'an 1000, l'an 40 et l'an 2000, dites-moi quand viendra l'empathie. J'ai perdu mon sang-froid avec l'antisocial. Faut la désescalade, dénonçons l'embuscade. C'est pas l'Angeliver qui fait le moteur, ni l'encadrement qui garnit l'intérieur. Après l'an 1000, l'an 40 et l'an 2000, dites-moi quand. Après l'an 1000, l'an 40 et l'an 2000, dites-moi quand viendra l'empathie. Défaisons l'emballage, magouille et vaniteux ont libéré la rage. Arrêtons tout, plus de parents lavons les crétons. Que demain, nous commençons l'an 1.
Bon.
Après l'an 1000, l'an 40 et l'an 2000, dites-moi quand. Après l'an 1000, l'an 40 et l'an 2000, dites-moi quand.
Voilà, Marcel et son orchestre. Oui, donc je le disais tout à l'heure, si on arrête de produire un certain nombre d'espoirs envers les médias, si l'on arrête d'espérer qu'un jour une éthique journalistique se ferait jour de façon massive, eh bien, on en revient un petit peu au fait de ne compter que sur nous-mêmes. Quand la chanson dit « Producteurs, sauvons-nous nous-mêmes », eh bien, au niveau médiatique, c'est la même logique. Donc, je le disais, par exemple, Radio Libertaire est un média. Bah oui, je pense que, voilà, un endroit où il y a des micros, une table de mixage et on diffuse de la parole, c'est un média. Et donc, faut compter que sur nous-mêmes, tout simplement. Je pense qu'il faut en venir à ça. Et sur nous-mêmes, ça veut dire quoi ? Ça veut dire des journaux. Parfois, quand je fais la revue de presse, je cite un certain nombre de titres de la presse libertaire dans cette émission-là. Et au-delà de cette presse libertaire, il y a tout un ensemble de petites revues, de bulletins, plus ou moins confidentiels, plus ou moins diffusés. Il y a des sites internet, bien sûr, puisqu'on est maintenant à l'heure d'internet, quand même. Il y a des librairies dans les squat, il y a des infokiosques, il y a d'autres radios que Radio Libertaire, ou plus exactement des anarchistes qui font des émissions sur des radios associatives. Il y a des maisons d'édition, de nombreuses maisons d'édition libertaires, donc actuellement. Tout cela donc pour diffuser de la parole, diffuser donc de l'écrit. Alors, bien évidemment, je sais que tout cela ne va pas résister à ce qu'on m'a dit et redit souvent, que vous jouez petit et vous arriverez jamais à dépasser le cadre restreint d'une petite minorité activiste qui vous écoute ou qui est avec vous. Mais là encore, je vais pas redire ce que j'ai dit tout à l'heure, hein. L'exemple de, par exemple, cette émission de la FA dans cette tribune libre, cette émission qui avait lieu à l'époque, donc la possibilité d'être écouté par des dizaines ou des centaines, c'était des centaines de milliers de personnes, même si c'était un taux d'écoute limité, mais ça se comptait quand même en centaines de milliers de personnes, eh bien, n'avait eu, on ne peut jamais dire aucun, mais en tout cas, avait eu très très peu d'impact. Ces 20 ou 25 minutes de parole anarchiste noyées entre les informations générales, la publicité et le film du soir, ça avait eu que très très peu d'impact. Si je regarde par exemple la discussion qu'on a eue hier à la librairie Publico, donc on projetait Le Pont, donc ce film allemand, un peu un classique oublié, mais un classique de l'antimilitarisme quand même en matière de fiction, cinéma. Voilà, ce week-end du 1er mai, voilà, on était très peu, hein, ou alors on n'était pas beaucoup à se rencontrer, mais il y a eu des échanges. Je pense assez riche, assez intéressant. Et bien, pour ma part, je pense qu'il s'est passé quelque chose. Et qu'est-ce qu'on demande quand on prend la parole et qu'on diffuse sa parole, qu'on diffuse ses idées ? On espère, bien sûr, que ça soit entendu. Et dans les grands médias, c'est même pas sûr que ça soit simplement entendu, que ce soit simplement écouté. Ça peut être simplement qu'un débit de parole au milieu d'un débit plus large de parole. Là, je me suis exprimé, d'autres se sont exprimés, et je pense que dans ce contexte-là, la parole de toutes et tous a été non pas seulement entendue et écoutée, mais je pense aussi comprise. Donc, voilà, c'est ça qui compte pour moi. Et dans le domaine de l'édition libertaire, bon, des fois, il y a des succès, entre guillemets, commerciaux, on va dire, où des livres anarchistes ou libertaires vont se vendre très très bien. Mais on est très très loin des tirages de Éric Zemmour, par exemple, qui vend des centaines de milliers d'exemplaires de ses livres. Mais voilà, parfois, il y a quand même des livres qui se vendent à plusieurs milliers d'exemplaires, voire au-dessus de 10 000 exemplaires, ça peut arriver. Donc, c'est toujours, entre guillemets, du gagne petit. Mais pour moi, l'idée, c'est d'être aussi compris. Pour moi, la parole, c'est pas une musique qui glisse comme ça, qui rentre dans des oreilles pour en ressortir noyée au milieu d'un flux d'autres paroles ininterrompues. Donc, c'est plutôt par l'idée, effectivement, et la circulation de ces idées que, j'espère, eh bien, on peut rencontrer d'autres amis qui viendront, des camarades de lutte, avec qui on pourra faire donc des choses. Et au-delà de la circulation de l'idée, je l'ai dit aussi, tout simplement la circonstance, c'est-à-dire un moment de lutte, un moment où il se passe des choses, où il y a des échanges, où il y a des interactions, eh bien, va produire aussi cet effet-là. Je l'ai évoqué aussi donc tout à l'heure. Donc effectivement, il faut. Je pense, et c'est ce que j'essaye de faire ici des fois, en citant dans l'agenda, je donne souvent des adresses de lieux différents, avec des adresses différentes, où je renvoie vers des sites ou vers des journaux, parce que je pense que c'est dans cette multitude-là, que eh bien on peut trouver des informations, on peut trouver des réflexions. Alors ça ne veut pas dire que dans cette multitude il y a une unité de pensée. Non, dans cette multitude-là, bien souvent j'ai mon poil qui va se hérisser, mes désaccords vont s'exprimer et parfois je vais rencontrer et ça arrive bien sûr, heureusement, eh bien un texte, une analyse, un commentaire qui va me séduire, duquel je vais tirer des enseignements. Donc, c'est vers ça qu'il faut se porter et se détacher, je pense, de toutes les illusions qu'on peut donc avoir envers les médias. Un ami à moi, aujourd'hui décédé, avait été contacté parce qu'il avait écrit un bouquin à l'époque, ou plusieurs peut-être, et donc il avait été contacté par une émission, ce qu'on appelle en télé un talk show. Alors je sais plus lequel c'était de talk show, mais enfin vous voyez, ce genre de talk show où donc autour d'un sujet de société, eh bien on met en présence donc des gens qui sont censés débattre. Et l'émission, c'était pas du direct, donc l'émission a été enregistrée, et ce copain, ce camarade me disait que il avait compris qu'en fait la recette était la suivante, c'est-à-dire pour faire du spectacle, eh bien on avait un anarchiste, on avait un militant d'extrême droite, il y avait un monarchiste aussi qui était là, et l'idée de l'animateur, eh bien, c'était de faire une marmite explosive pour faire du spectacle. Et il m'a dit ça s'est pas du tout passé comme prévu, parce que avec des gens qui pouvaient intervenir au micro, donc dans la salle, le public, eh bien tout s'était focalisé sur l'anarchisme, et d'une façon interrogative, les gens voulaient savoir. Et l'émission n'a pas été diffusée, et l'animateur lui a dit que c'était pas intéressant, que c'était pas ce qu'il recherchait, que c'était pas ça qu'il voulait. Et le commentaire qu'il m'a fait, c'est qu'on l'y reprendrait plus aller dans une émission de télévision. Et voilà, c'est un exemple. Et ensuite, eh bien, il s'est rapproché de moyens plus traditionnels et plus efficaces dans la perspective que j'ai énoncée tout à l'heure, à savoir diffuser des tracts, coller des affiches, vendre un journal dans la rue, voire causer ici à Radio Libertaire. Donc s'illusionner est quelque chose de dangereux. Et je sais que des fois, je rencontre ce genre de réaction après une manifestation, par exemple. Après une manifestation, les gens rentrent chez eux, j'en suis, et on regarde les médias pour voir ce que vont en dire les médias. Et une manifestation, c'est un moment aussi humain. Il y a du monde, on est avec du monde, il se passe des choses dans des manifestations, il peut y avoir des rencontres, il peut y avoir des discussions, il peut y avoir aussi des situations conflictuelles, bref, il peut se passer plein de choses dans une manifestation que chacun, chacune aura vécu donc à sa façon. Quand on regarde les médias, on se dit qu'on n'a pas vu la même chose, qu'on n'a pas vécu la même chose, et on est scandalisé par le discours qui va être tenu. Ils ont parlé de ça, ils auraient dû parler de ça, ils ont oublié de parler de ça, et pourtant c'était pas ça la manif, etc. Et tout. Bien, ce qui compte, c'est ce qui a été vécu. Tout simplement par les personnes. Je donnais l'exemple du tract tout à l'heure. Oui, c'est vrai que sur 1000 tracts distribués, il y en a peut-être 800 qui vont partir à la poubelle, et à la finale, peut-être quelques-uns qui vont être lus et surtout compris. Mais c'est pas 20. Et quand on recherche le quantitatif, on oublie le qualitatif. Le qualitatif, c'est quoi ? C'est la rencontre qu'on va faire ou qu'on va solliciter entre quelqu'un qu'on ne connaît pas et la rencontre avec nos idées, nos pratiques et nos projets. Cet exemple, je l'avais déjà donné aussi à la radio il y a longtemps, quand j'étais en grande banlieue sud, dans notre ville. On avait fait un groupe libertaire avec donc de très jeunes camarades à l'époque, et on était particulièrement actifs avec de la peinture sur les murs pour exprimer ce qu'on avait envie d'exprimer. Et on s'était aussi doté d'une radio libre qui s'appelait Radio Alarme. C'était donc sur Évry, Ris-Orangis, etc. Mais bref, on s'exprimait pas mal sur les murs, et comme à l'époque on était confronté au service militaire, donc la conscription était obligatoire, hein. On avait, je me rappelle, en lettres noires et rouges, fait, je ne me rappelle plus le terme exact, mais c'était sur l'objection, l'insoumission, voilà, on avait fait un tag appelant à cela. Et on peut toujours se dire, voilà, un tag sur un mur, à quoi ça sert Et des années après, je rencontre, pas vraiment par hasard, puisque c'était à la librairie Publico, je rencontre un jeune, et le service militaire était encore obligatoire, et donc on discute, il me dit « Ah ouais, je refuse la conscription, je refuse l'armée, je vais m'insoumettre au service militaire, etc. J'ai pris la décision, etc. » Et puis, je lui demande « Mais comment t'en es venu là ?» et tout. Je dis « C'est quand même pas une décision forcément facile, bon, il y a des conséquences derrière, hein. Tu peux être arrêté, faire de la prison, etc. et tout. Et il me dit, bah écoute, j'étais absolument pas politisé, ni ouvert à quoi que ce soit, et encore moins à la critique de l'armée, du militarisme, etc. Mais toutes mes années de collège et de lycée, je passais devant un slogan qui était tagué sur un mur, et il me cite le slogan dont, avec un camarade, on avait été l'auteur. Et il me dit, chaque jour, je passais devant, et chaque jour, j'y réfléchissais. Et puis un jour, je me suis un peu documenté sur le sujet. Et à la finale, quand l'heure du service militaire est arrivée, ben, j'ai pris donc cette décision de refuser donc de faire le service militaire. Et quand je lui ai dit, ben, ce tag, c'est moi et un camarade qui l'avions fait 10 ans ou 15 ans plus tôt, il était scotché. Et en même temps, ça m'avait interpellé, où je m'étais dit que tout avait, dans ce qu'on peut produire comme parole, comme action aussi, tout avait, à un moment donné, il y avait un résultat, enfin j'aime pas le mot résultat, c'est un peu un langage économique, je trouve, mais en tout cas, tout pouvait produire quelque chose, même le plus insignifiant. À cette antenne-là, avec Sylvie, lorsqu'on faisait une émission qui s'appelait « Il n'y en a pas un sur 100 », où on faisait parler des anarchistes de leurs engagements, de leur quotidien et de leur parcours, un vieux camarade nous avait dit que à l'époque, il travaillait, quand il était jeune, dans l'industrie automobile, et que donc il assemblait des banquettes sur les voitures. Et alors je ne sais plus comment ça se produit, mais il doit démonter à un moment donné une banquette qui était mal fixée, enfin je ne sais pas quoi, je ne me rappelle plus les détails, et il trouve un exemplaire du Libertaire. À l'époque, le Libertaire, le journal Le Libertaire. Et il fout ça dans sa poche, et nous avait-il raconté, alors, c'est ainsi que lui-même se présentait, à l'époque j'étais plutôt un réactionnaire, J'étais plutôt proche de thèses monarchistes. Et donc, j'ai un jour déplié ce journal que j'avais trouvé accidentellement. Et ça m'a ouvert voilà, des portes que je n'imaginais pas. Une vision de la société à laquelle j'avais jamais pensé. Et il est devenu toute sa vie et jusqu'à son décès un militant libertaire engagé pour le combat libertaire. Donc je dis ça parce que souvent j'ai des échos dans ce monde aujourd'hui qui est compliqué, qui est pas facile, où on sent partout autour de nous un vent qui souffle, et ce vent qui souffle partout, qu'on regarde encore ce qui s'est passé en Roumanie ce week-end avec l'extrême droite qui a progressé de façon fantastique, et partout ailleurs dans le monde, donc ce souffle nationaliste qui souffle sur tous les pays, ce souffle militariste, patriote, qui souffle aussi dans de nombreux pays, y compris la France, tout cela nous amène effectivement à avoir parfois le moral un peu en berne, on va dire, et puis à se dire à quoi bon à la finale, c'est la merde partout, tout ce qui progresse contre nos idées, contre nos aspirations, contre la conception qu'on peut avoir de l'humain, tout roule contre nous, quoi, en ce moment. Je veux dire, le courant libertaire, nos aspirations, l'image qui nous est donnée de voir du monde peut amener effectivement à une forme de défaitisme et à relativiser par de là même les gestes qu'on peut faire, la parole qu'on pourrait avoir, et nous amener à y renoncer, à cette parole, dans un contexte globalement défavorable. Et l'exemple que je donnais du tag antimilitariste en faveur de l'objection, de l'insoumission, eh bien, démontre que non, que même un petit tag sur un mur peut produire un effet, c'est-à-dire une personne qui rencontre à un moment donné cette parole et qui va s'ouvrir effectivement à d'autres choses. Et voilà, et je pense que tout le monde pourrait donner des exemples de ce type. De ce type-là. On va faire une petite pause. Il est 45, 12h45. Je voulais vous proposer d'écouter. Oui, là, on écoutait. Qu'est-ce qu'on avait écouté? Ah oui, c'était Marcel et son orchestre. On va revenir donc à mon cher groupe, donc La Canaille, et se retrouver dans quelques instants. C'est bien Radio Libertaire, c'est l'émission lundi matin. Laurent, aujourd'hui, avec vous, donc, et je pense prochainement avec Nicolas et Sylvie, où on reviendra, on me posait la question hier, où on reviendra donc sur le livre, parce qu'on avait promis qu'on ferait une suite sur Histoire au pluriel de la ZAD. On n'a pas oublié, on va le faire. Voilà, on écoute donc La Canaille.
La pression. Tous sous la pression.
Compte bancaire à découvert, salaire dérisoire. Constamment dans le rouge, ici on travaille pour la gloire. Le peu d'argent qu'on gagne est bouffé par les crédits. À peine ta paye arrive que déjà t'as le trois quarts qui est saisi. Je vais retirer du cash comme je joue l'auto. Je tente ma chance si ça marche pour 20 euros. Je suis fin heureux, toujours les poches vides. C'est pas pour nous que les vitrines brillent. Nous on est juste fou, avoir envie et partir en vrille. Être sans sous ça rend fou, une véritable obsession. Vu que sans tête tu gamberges, cherche une solution. Prise de décision entre le marteau et l'enclume. Ta conscience te fait défaut, laisse ton cerveau dans la brume. Du fric. De la maille. Une seule et triste ambition. Bordel, faut qu'on s'en sorte à n'importe quelle condition. C'est ce qui nous pousse à accepter ce qu'on devrait pas. à oublier qu'en temps normal on le ferait pas. C'est grave comme on met de côté notre fierté pour du pognon. Regarde à quoi on est réduit, comme on se rabaisse devant nos patrons. Tellement peur du chôme du qu'on se laisse marcher dessus. Du coup nous au taf on mouche pas, on se prostitue. On est en manque et c'est la cause de tous nos maux. Nous faut notre dose à nous aussi, c'est pas nouveau. Ne méprends pas, on veut que nos durs n'ont pas l'aumône. Pour enfin vivre décemment et faire plaisir à nos mômes. Du fric. De la maille. Et ouais, la thune. Besoin d'oseille. Ouais, je parle de baisse étendue, j'entends de là les réfractaires. Me dire que je suis tombé bien bas, j'exagère. Propos trop terre à terre, à leurs yeux y'a pas que ça qui compte. Ça manque de poésie dans mes écrits, trouve ça vulgaire. Moi je me méfie de ceux que ça gêne, pas clair avec leur blé. Les mêmes pour qui c'est tabou d'en parler, de suite sont mal à l'aise. Plein de mystères dans leurs affaires, soit égal pour soi c'est malhonnête. Et souvent ça va de pair. Pendant ce temps-là, nous on se partage des bouts de misère. De petits boulots en petits boulots, l'avenir pour nous reste précaire. Tous résignés, déçus, fatigués. Les vieux diront que chez nous on perd sa vie à la gagner. Alors du fric. Bien sûr qu'on veut du fric, de la maille. Pour pas finir, s'habille sur la paille, ouais la thune. Des fois pour ça on décrocherait la lune, point d'oseille. Dans ce monde où tout a un prix, où tout se paye.
La pression. Tout souffle. La pression.
Voilà, on vient d'écouter donc à l'instant le groupe La Canaille. Il est 1h moins 10, on arrive donc à la fin de l'émission. Voilà, à partir donc de cette lecture d'un article et donc de ce lapsus donc accordé donc à Bruno Retailleau. Et qui serait donc révélateur donc d'un racisme d'État systémique. J'ai tenu donc à partir de là quelques propos etc. autour donc des médias. Car oui, je le pense et je me répète, faut sauter, s'enlever quand on en a un certain nombre d'illusions envers les médias. Même si je l'ai dit, même si. Et je l'ai expliqué, il pouvait y avoir des journalistes honnêtes, mais qu'est-ce qui comptait, c'était le contexte global d'un média, quelle était sa ligne politique, quelle était sa ligne éditoriale globale, et que c'était en fonction de cela qu'il n'y avait rien à en espérer, bien évidemment. Hein. Pas plus que l'exemple que je donnais du bon policier ne doit faire oublier le jugement global qu'on doit porter donc sur l'institution. Et puis compter effectivement sur nous-mêmes. On en est là. Souvent dans la société, ne compter sur nous-mêmes nous renvoie à quoi ? Nous renvoie qu'au fait qu'on est seul, mais quand on s'associe, on est moins seul pour résister, on est moins seul pour lutter. Quand on s'associe pour parler, écrire et se faire entendre, eh bien, on est moins seul, on est plus fort pour cela. Voilà, sans compter qu'il y a quand même tout un tas de moyens qui propose aussi, que ce soit des médias, des librairies ou autres, militants, militantes bien sûr, qui proposent aussi donc le fait d'accéder à une parole qui soit libre, basée sur des échanges réels entre personnes. Donc voilà, et il y en a partout. Ça, je peux pas tout dire dans l'émission, bien évidemment, mais des lieux, il y en a qui s'ouvrent vraiment partout, y compris dans des villages parfois, où j'apprends que une petite librairie, un infokiosque, c'est ouvert et que ça fonctionne Alors, ça veut dire quoi, un petit lieu militant associatif comme ça, une petite librairie qui s'ouvre non pas dans un milieu urbain comme le nôtre ici en région parisienne, mais dans la campagne, à la montagne ou autre, eh ben, c'est un lieu qui va fédérer des individus, au moins sur une base commune, et leur permettre donc d'échanger, leur permettre aussi de, pourquoi pas, de s'associer pour s'engager aussi dans des actes de résistance, de lutte. Et des lieux comme ça, eh bien, ça foisonne. J'en entends parler en permanence. C'est une réalité, cela, plutôt encourageante. Alors, c'est une réalité qui se développe à l'ombre donc des médias. C'est une réalité qui se développe d'une façon quasi souterraine, même si la volonté, au contraire, est d'affirmer publiquement quelque chose. Donc, tout cela démontre une réalité d'aujourd'hui que j'évoque souvent dans cette émission-là. C'est non pas la permanence des idées libertaires dans la société, mais un mouvement aujourd'hui plutôt encourageant qui va vers une certaine amplification de la diffusion des idées libertaires dans la société. Alors, plutôt que de pleurer sur ce qui devrait être et qui n'est pas, eh bien, soyons réalistes et regardons ce qui est déjà possible aujourd'hui. Et à partir de ce qui est déjà possible aujourd'hui, eh bien, amplifier cette dynamique de diffusion des idées, et l'idée devant, bien sûr, déboucher aussi sur des actes. Rendez-vous la semaine prochaine, ça sera l'émission lundi matin, donc 11h, 13h, comme chaque lundi, quand tout va bien. N'hésitez pas à retrouver l'émission sur notre site anarchiste.info. Podcast, streaming, des rendez-vous, etc. Vous pouvez retrouver aussi le site de Radio Libertaire, notamment, bah oui, quand un média existe, pour le soutenir, pour qu'il puisse continuer donc à vivre. À la semaine prochaine, au revoir. On va se quitter en musique avec un morceau instrumental du groupe Alp, de Catherine Ribeiro plus Alp, un morceau qui s'appelle Quelle épique époque opaque. À la semaine prochaine, au revoir.
Thank you.